Bonjour Lydia Muller. Donc, comme vient de le dire Philippe Eledjman, vous êtes psychologue, psychothérapeute et de surcroît suisse-allemande. Vous avez un parcours assez original et j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous et surtout ce qui vous a amené à vous passionner pour ce sujet qui est encore tabou, qu'est la mort.
Comme vous dites, suisse-allemande, d'habitude je le considère un peu comme une tare. Mais comme nous sommes irrémédiablement imparfaits, définitivement imparfaits, eh bien je porte cette imperfection avec tendresse. Mon parcours, c'est en 99 que je me suis passionnée pour cette démarche du docteur Simonton, l'accompagnement des personnes cancéreuses. Et j'ai été très touchée par cette approche. Je me suis dit, ça y est, la panacée pour guérir le cancer. Et comme Don Quichotte contre les moulins, je me suis mise en route à vouloir battre le cancer par des moyens psychologiques, psychothérapeutiques, relaxation conjointement au meilleur traitement allopathique. Et bien sûr, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de morts sur mon chemin. C'est des gens qui ne sont pas allés dans la direction de la guérison, comme j'espérais, mais qui allaient mourir. Et peu à peu, bon, il a fallu un cataclysme dans ma propre vie et être moi-même touchée par le cancer que je me suis réveillée et que j'ai réalisé combien au fond de moi il y avait, je dirais, un cancer de l'âme qui se manifestait dans mon corps. Et à partir de là, je crois, j'ai vraiment pris une autre direction. D'abord, la rencontre de moi-même, de petite Lydia. Et pendant toute cette période qui suivait, donc, je me suis beaucoup inspirée des travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, qui pour moi était le personnage, c'est ma compatriote adorée. Et j'ai beaucoup appris par elle. Et puis, faut dire que la rencontre avec Bernard Montault a été décisive pour moi parce qu'il m'a amené un nouveau qui me manque parce que je commence à tourner en rond. C'est comme quand on a fait le tour. J'avais soif d'autre chose. Alors j'étais sur le point de quitter tout. Quand par son nouveau regard sur la naissance, les 7 étapes de la naissance, ça m'a donné une inspiration pour les 7 étapes de la fin de vie, qu'aujourd'hui j'appellerais l'accouchement fin de vie. Et comme il y a un accouchement au début de la vie, avec des étapes très importantes pour le bébé, comme initiation à la terre, j'ai commencé à me pencher sur ces 7 étapes de la fin de vie, comme une initiation à un autre passage.
Vous tracez un parallèle, c'est vrai, très très saisissant, dans ce livre La vie et la mort de Gita Malas, entre la naissance et la mort. Et c'est un parallèle selon la psychologie nucléaire. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ces différentes étapes et nous dire les enjeux dans toute fin de vie ? Et je vais demander à Catherine, et à ce moment-là, de vous retourner. On va vous mettre un transparent sur le grand écran.
Alors, il va falloir que vous tourniez, si vous voulez pas un torticolis. Il va vous mettre un... Ah ben, s'il y avait quelqu'un là-bas, il mettrait. Un transparent qui va vous montrer le parallèle entre les 7 étapes de la naissance, comme Bernard Montault les a codifiées à travers la psychanalyse corporelle. Alors, je sais que c'est très loin. En rouge, vous avez la naissance et en bas, en noir, les étapes correspondantes. Vu que vous n'arrivez pas à les voir, je vais vous les dire. Hein? Et vous voyez qu'ils sont... il y a donc 3 qui sont à gauche, étape 2, 1, 2, 3, 4, c'est chez le bébé la sortie, donc ça fait comme un goulot, et de nouveau ça s'ouvre vers la droite. Ok? Donc, vous le verrez tout à l'heure, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire. Parce que le parallèle qui me frappe tellement, c'est que à la naissance, comme Bernard Montault l'a codifié, nous avons un bébé à 9 mois qui se retourne dans le ventre, qui se tourne vers la porte de sortie qu'il doit prendre. Et effectivement, actuellement, en autonomie, on fait tout pour que cet enfant se retourne. Parce que s'il ne se retourne pas sans passer en siège, tout est multiplié par 1000. Son effort, sa douleur. Donc, il a appelé la première étape la décision de naître. Et je me suis demandé, mais alors, de l'autre côté, quelle est la décision de mourir ? Et bien sûr, dans notre société, nous n'avons pratiquement plus ce concept. Je mets décision d'ailleurs entre parenthèses. Ce n'est pas par suicide, entendons-nous bien. Cette décision de mourir, elle peut encore être vue chez des traditions beaucoup plus archaïques, notamment chez les Amérindiens, où les ethnologues ont bien relevé le fait que des personnes âgées, des vieux, quand ils sentent la mort s'approcher, ils font venir de partout leur parentèle pour qu'ils viennent se réunir. Et puis, quand ils sont tous là, il y a un cérémonial pour l'adieu, et à chacun, il dit encore une chose, et quand il a dit adieu à tout le monde, quand il a donné son héritage spirituel, eh bien, il se retire dans sa tente et il meurt. Et il meurt dans les heures qui suivent. Et chez nous, moi, je l'ai vu seulement, en fait, après coup, par exemple, les parentés qui m'ont raconté, par rapport à quelqu'un qui est mort abruptement, combien ces personnes ont eu une intuition de leur mort qui venait, comme si quelque chose en eux savait qu'ils allaient mourir. Et donc, ils avaient... entrepris par exemple des actes notariales, ils avaient entrepris encore une mise en ordre de leur vie pratique. J'en ai rencontré une jeune femme dont le mari est mort par un accident de moto. Elle a trouvé son bureau nickel propre alors que c'était un homme bordélique. Donc ces événements nous frappe comme si la personne savait, alors que c'était une mort attendue de personne. Il n'y avait aucune préparation. Et donc, nous, de là, je me suis dit, mais nous savons, quelque chose en nous sait que nous allons mourir, alors que notre tête, évidemment, on n'en sait rien. Et puis, la plupart des gens, quand même, rencontrent cette décision, entre guillemets, ils rencontrent que quelque chose en eux a décidé de mourir par la maladie mortelle, par une annonce, un diagnostic d'une maladie grave. Voilà, ça serait cette opposition donc, de la première étape avec le naissant qui, lui, se retourne dans le ventre, comme pour dire « ça y est, j'y vais ». Maintenant, il y a une grande différence. Si 97% des naissants, des fœtus, se retournent automatiquement et que 3% sont dans le siège, je crois en fin de vie, c'est juste l'inverse. Nous sommes, quand nous avons une annonce d'une maladie extrêmement grave, eh bien 97% vont être en siège et ça veut dire en reculant, vont s'opposer, vont dire non, j'y vais pas. Et que je dirais 3%, et peut-être c'est même encore beaucoup, qui diront « d'accord, j'y vais ». Et donc nous voyons déjà une fondamentale différence entre le début du processus, celui qui va vers la naissance, qui va vers la vie sur Terre, ou bien celui qui va une vie au-delà de la Terre. Je l'appellerai comme ça. Puis, je continue.
Hein? Oui, mais peut-être brièvement plus court.
Alors, donc, la deuxième phase, qui chez le bébé, bien sûr, vous savez tous, vous qui avez accouché, vous l'avez vécu avec, c'est cette phase des contractions non expulsives, le long couloir du ventre, et où le bébé a des immenses efforts pour rejoindre la sortie. Il a un seul choix, c'est aller avec ou aller contre. Alors, aller avec, c'est, il réalise qu'il a moins mal s'il va avec les contractions que s'il se braque contre les contractions. Et de l'autre côté de la fin de vie, ce long couloir des contractions, nous le retrouvons aussi. En fait, c'est les contractions des pertes fonctionnelles. Quand morceau par morceau, le corps fout le camp. Quand la personne va vivre la diminution de ses forces, les organes défaillants, les fonctions qui se détraquent. Et moi, j'appelle ça les montagnes russes les montagnes russes de l'espoir et du désespoir. C'est une phase extrêmement difficile où, si vous connaissez les étapes de Kubler-Ross, ça correspond à toutes ces phases de la révolte, du marchandage, de la dépression, et rebelote, espoir, révolte, etc. Les peurs, c'est le monde tourmenté des émotions pendant ces contractions de la fin de vie. Puis nous arrivons au point de blocage chez le bébé qui sent. Donc l'utérus, le col de l'utérus s'est ouvert, mais il est ouvert de manière que le bébé doit forcer ce ventre. Il doit passer en force en prenant aussi le risque de déchirer ce ventre. Et alors il se trouve devant un immense dilemme, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'étape de l'héros, héroïque, parce qu'il doit sacrifier ce qu'il a le plus cher au monde, c'est-à-dire son univers, l'utérus. Et bien sûr, il recule. Et alors, même que la mère pousse avec toutes ses forces, il est devant cette opposition, maman pousse et en même temps, le ventre le retient. Jusqu'à ce qu'il prenne la décision, parce qu'il frôle la mort, il faut que je passe pour sauver ma vie. Donc, de l'autre côté, avec la mort, nous avons aussi des points de blocage. Que peu à peu, donc, le corps a diminué. Donc, nous nous trouvons, à la fin de ce long couloir des pertes fonctionnelles, nous nous trouvons avec un corps laminé, un corps qui est tombé en ruine pratiquement, et encore on s'accroche, on ne veut pas lâcher, parce que là, il s'agit aussi de sacrifier le tout pour le tout. Et en fait, il s'agit là, non pas le ventre qu'il faut sacrifier, c'est le moi. Le moi qui s'identifie encore à « mais je suis encore celui-ci ou celle-là ». Et ça va coincer sur une chose, encore un contrôle des sphincters. Ça va coincer sur un rôle auquel on tient. Par exemple, une mère qui a des petits-enfants, mais elle ne va pas pouvoir lâcher ce rôle. Et donc, ça va être la lutte incroyable, acharnée, jusqu'à ce que la douleur est trop forte, elle va lâcher. Donc, les points de blocage, c'est aussi, il faut sacrifier ce qu'on a le plus cher, l'identité du moi. Cette identification à des rôles que nous nous sommes mis durant la vie, comme des vêtements. Et puis, bon, il faut enlever le dernier vêtement encore et le lâcher pour passer tout nu, comme le bébé, en effet. Donc, en quatre, nous avons la sortie. La sortie du ventre chez le bébé, qui est fait de deux choses. D'un côté, il y a un immense soulagement par cette liberté gagnée. Et de l'autre côté, il y a la rencontre douloureuse avec les paramètres de la Terre. Le froid, l'air, la lumière, enfin, tout qui est, c'est très violent pour cet enfant. Et de l'autre côté, la sortie de cette identification, ça va être la sortie de son identité. Je suis celle et celle, celui-ci. Et on va sortir du moi, et ça va aussi être une libération. Vécu, on le voit chez les mourants, qu'ils peuvent se tourner vers le mur, où ils rentrent, à partir de là, en fait, c'est l'agonie qui commence. Et pendant cette première phase de la sortie, il vit un soulagement d'avoir enfin lâché cette lutte. Mais il va rencontrer maintenant autre chose, non pas les paramètres terrestres, mais il va rencontrer tout le monde psychologique en force, c'est-à-dire de ceux qui restent. Là, en fait, la famille a déjà perdu le leur. Il s'est détourné d'eux. On pourrait dire il a pris le train, mais le train est déjà... il est monté dans le train, il est encore sur le quai de la gare. Et les autres sont en bas, sur le quai. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième, donc, va se jouer. Là, c'est beaucoup en lien avec ce que les NDE, les expériences de mort approchées ou de mort imminente, nous ont enseigné. C'est-à-dire, il y a après une élévation où on se retire un peu, s'élève au-dessus de ce monde terrestre, ils sont en contact très intime avec leur vie, le bilan, j'appelle ça le bilan de leur vie. Du côté du bébé, c'est la rencontre avec les humains, les premiers humains en fait qui l'accueillent, c'est le gynécologue, la sage-femme. Et il va découvrir dans cette première humanité qu'il rencontre une chose étonnante. Parce qu'il faut comprendre, autant que dans les NDE, on a des grands yeux qui s'ouvrent, qu'on voit au-delà des apparences, le bébé a cette même faculté. C'est ce qu'on a découvert en psychanalyse corporelle, en revivant les naissances, les phases de la naissance, de voir l'intériorité des gens qui sont là. Et il découvre que cet humain peut être à un endroit, avec son corps et son esprit ailleurs. Cette division étrange de l'homme. Il n'est pas unifié. Il est capable de tenir ce bébé dans les mains, le laver, lui sortir les glaires, et de l'autre côté, penser à toute autre chose. Sa tête peut être chez la maman ou dans l'autre salle d'accouchement, etc. Et penser à la soirée, les achats qu'il doit faire. Et pour l'enfant, c'est une brûlure de sentir cette absence. Cette inconscience à qui il est, il se sent complètement nié. Et puis il y a la face, donc du côté mort, pour redire encore ça, le bilan, là on n'est pas face à l'imperfection des autres, mais devant la sienne. Nous sommes devant notre imperfection de la vie, à la voir telle qu'elle a été, pas comme on a cru qu'elle était. Donc, il y a la vérité qui vient en toute transparence. Et dans la sixième étape, dans la naissance où l'enfant va rencontrer les parents, eh bien, il va faire une découverte pour lui ahurissante. Et il faut le savoir, ça, que l'enfant est en train de rencontrer toutes les imperfections terrestres. D'abord celle de notre milieu, de l'air, le froid, le chaud, etc., tout ça. Après cette étrange division humaine que nous avons, la dissociation intérieure de notre conscience qui peut être ailleurs. Et puis il rencontre un amour imparfait, un amour conditionnel. Et quand on vient d'une inconditionnalité du ventre, cet utérus, ces 9 mois de perfection qui vient de la nuit des temps, lui, il rencontre là, en fait, tous les scénarios familiales. Il rencontre cette maman et ce papa avec qui ils sont, leur amour bancal, leur projection, leur désir sur lui. Et enfin, il réalise que, eh bien, ils ne voient pas qui je suis. Je suis déjà quelqu'un, un pion sur l'échiquier familial, en fait. Et en 7, juste pour terminer ça, il ne va pas supporter ça et installer l'écran. L'écran qui ferme les organes des sens. Moins sentir pour moins souffrir. Et alors, à partir de là, il a son traumatisme périnatal. Et en face, chez le mourant, nous avons, ben les ND nous ont dit qu'ils sont, s'ils arrivent à cette étape, devant un amour inconditionnel. Parce qu'en fait, du côté mort, nous pouvons retrouver ce que, à la naissance, on a perdu. Retrouver un amour qui dit une inconditionnalité devant l'imperfection humaine qu'on a vue dans cette révision de son bilan de vie. Alors, il faut dire que je ne crois pas que tout le monde est devant cette lumière qu'ils décrivent dans les NDE. Il est plutôt rare qu'ils accèdent dans cette sixième étape à l'amour inconditionnel. Et je crois que c'est beaucoup en lien, en fait, aussi du travail qui a été fait. De toute façon, toutes ces étapes, cette étape de la fin de vie, sont en lien avec quel est le travail que nous avons fait pendant la vie par rapport à nos imperfections, par rapport à nos souffrances, par rapport à nos réconciliations, etc. Et en 7, donc, ça serait la mort ou le dernier inspire, expire de la personne et elle passe à un autre état d'existence. Voilà, j'ai brossé rapidement ce parallèle entre la naissance et la mort. Et bien sûr, il y a un tas d'enjeux qui se révèlent à travers ce parallèle.
Oui, justement, dans votre livre, vous parlez du développement de ces 7 étapes de la mort et vous parlez d'un mourir qui dit oui à chacune des étapes. Qu'entendez-vous par là ?
En effet, dans le livre que vous trouverez sur le stand, La vie et la mort de Gita Malache, quand j'ai traduit ce que Bernard Montault avait décrit de cette mort, je l'ai traduit en allemand, j'ai été tellement touchée de voir quelqu'un qui mourait si différemment que mes patients. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mourait avec un réel oui. Oui, j'y vais. On peut trouver des gens qui disent « Tant mieux que je meurs, je me débarrasse alors de la vie. » Mais ce n'est pas celle-là. Je ne parle pas d'une mort comme ça où on a ras-le-bol et on veut mourir. Mais c'est une mort qui a commencé dans la décision de mourir, je dirais, avec « ça y est, je suis allée au bout de ce que j'avais à faire. » Elle a dit « j'ai accompli ma tâche, j'ai fini sur terre. » Un peu comme chez les Indiens, quand ils disent « ben voilà, maintenant je pars. » J'ai terminé, donc j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, j'ai mangé à ma faim sur terre, maintenant je peux changer. Je peux quitter la table et ça ne pose aucun problème. Elle se réjouissait, elle disait « je vais rejoindre ma patrie. » Donc ce départ de cette décision de mourir, elle était vraiment une envie de mourir, alors que généralement je rencontrais le refus de mourir, la peur de mourir. Et à partir de là, toutes les étapes qui suivaient étaient fondamentalement différentes parce que quand les gens perdaient des fonctions et devaient être alités, eh bien, en eux, il y avait une honte qu'on devait les laver, qu'on devait s'occuper d'eux, qu'on devait les torcher, quelque chose en eux, et trouvaient ça insupportable de perdre l'autonomie, l'indépendance. Alors, chez Gita Malache, c'était... Ah, ça y est, enfin je peux m'abandonner à des mains qui m'aiment, qui me lavent comme un bébé. Et ronronner ou roucouler comme de plaisir en s'abandonnant enfin à des mains tendres. Donc c'est une totalement différente manière de vivre cette étape. Je dirais que cette étape, elle a l'enjeu de profiter de ce qui reste, n'est-ce pas? Quand on perd, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Soit se refuser, je ne veux pas y aller, soit qu'est-ce que je peux encore en tirer? Comment ça pourrait me profiter? Et alors on passe de l'autre versant. Et effectivement, comprenez bien que si on est lavé, de toute façon, il faut être lavé, vu qu'on n'arrive plus soi-même. Mais être lavé en résistant, se braquant, ce n'est pas un plaisir. Tandis que la même chose, si c'est être lavé en sentant l'amour de ceux qui nous lavent, il y a l'abandon dedans et elle a dit, « Mon Dieu, jamais mon corps a été touché comme ça. »
Vous appelez ce que vous faites l'accompagnement pour mourir vivant. C'est presque dur à entendre.
Et c'est génial à entendre.
Vous voulez dire qu'on peut tous bien mourir. Et j'aimerais.
Je ne sais pas si on. On peut.
Comme ça.
Je crois en la liberté. Ça ne veut pas dire qu'on meurt tous bien. Non. Mais on peut. Il y a une chance qui est offerte à nous tous, oui.
Mais vous, dans votre travail auprès de ces personnes, qu'est-ce que vous apportez de nouveau?
Ben, moi, je travaille à deux niveaux. Un niveau, c'est avec le mourant, mais de plus en plus, en fait, avec la famille. Parce que j'estime que ceux qui doivent être à côté, c'est la famille, et pas des étrangers. Bon, il y a les soignants déjà. Donc, je forme aussi les soignants. Mais... ce qui est important, quand vous entendez, eh bien, on est dans un accouchement en fin de vie. Ça donne déjà une image qui réveille, parce que tous on l'a vécu de l'autre côté, tous. Certains, les femmes, vous l'avez vécu avec vos enfants, encore du versant mère, qui met l'enfant dehors. Mais alors, ça change quand même totalement. Si vous savez qu'il y a un accouchement, ça veut dire que ça va quelque part. Ça contient déjà un après. Et que c'est une préparation à l'après. Et quand je parle aux parents comme ça, vous comprenez les phases dans lesquelles vous êtes. Regardez ce que vous me dites, eh bien vous êtes dans les contractions avec votre maman. Alors, il faut savoir que la famille aussi est dans les contractions. On peut dire aussi que en fin de vie, il y a un couple qui se joue. Bon, il y a un couple intérieur, hein, parce qu'il faut aussi s'accoucher soi-même. Mais il y a un couple entre les proches, la famille, qui accompagne et qui, évidemment, retient en général. Et puis, il y a le mourant qui se correspond au bébé. Alors, quand les parents comprennent, eh bien, ils sont un peu dans la place de la maman. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire quand une mère se crispe dans les contractions? C'est pour ça qu'on fait les préparations à l'accouchement, pour qu'elle ne se crispe pas, pour qu'elle ne se raidisse pas, pour qu'elle ne soit pas dans un non dans la douleur, mais qu'elle lâche dans la douleur. Donc c'est la même chose dont il s'agit en fin de vie. À chaque contraction, à chaque perte, à chaque difficulté, nous, automatiquement, on se crispe. On dit non, non, c'est pas juste, non, on veut pas. Et le travail consiste, comme pour la mère, eh bien, d'aller dans le sens de lâcher. Comment passer du versant de dire oui pour qu'on en profite de cette phase? Et c'est très important parce que nier que la personne va mourir va empêcher qu'on puisse être proche et qu'on puisse vivre encore quelque chose de très essentiel. Moi, je pense que ces étapes nous sont données pour que nous allions au bout d'un amour possible encore. Et cet amour, tant qu'on dit maintenant, on a encore tout le temps, et on ne va pas poser des actes nécessaires pour vivre encore cet amour. Le refus, le déni empêche la proximité.
Je voudrais me tourner un peu du côté du public et leur demander s'il y a certaines personnes qui souhaitent poser une question.
Je voulais simplement vous demander deux choses. La première concernant les mourants. Pourquoi vous n'expliquez pas que cette situation ne vit que dans nos civilisations, que chez les Africains, chez les Américains du Sud, ceux qui vivent dans les forêts, les Amérindiens, c'est tout naturel. C'est quelque chose qui s'apprend, qui est inné. Nous savons tous que nous, en vivant, nous mourons. Donc c'est quelque chose que je connais, donc je ne comprends pas pourquoi, il faut l'expliquer que c'est aussi dans notre civilisation parce que nous n'avons pas appris. C'est quelque chose qui est tabou. Deuxièmement, au moment de la naissance, j'ai eu l'impression de comprendre que l'enfant a pratiquement subi un traumatisme en naissant. Mais la mère apporte quelque chose. Moi, je suis moi-même maman de plusieurs enfants. J'ai eu un siège qui est né parfaitement bien parce que je l'ai voulu qu'il naisse bien. Et le courant est passé entre mon enfant et moi et il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai presque accouché naturellement toute seule. C'est comme la position devient naturelle, il n'y a pas de difficulté. Je crois que c'est chez nous, dans nos civilisations occidentales, très industrialisées, où nous rencontrons les difficultés que nous nous mettons dans la tête. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait faire passer. Non pas la difficulté par elle-même, mais ce que nous appréhendons, ce que nous apprenons, qui est un peu faussé. Je dirais même naturellement faussé.
J'aimerais vous répondre à votre première intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les Africains, on n'a aucun accompagnement de cette sorte à faire. Mais il faut aussi dire que la civilisation occidentale, au niveau de la conscience, elle a passé à un autre niveau. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans une civilisation du moi. Tandis que dans ces civilisations que vous avez nommées les autres, c'est encore un nous tribal qui est régi par d'autres lois de conscience. Donc nous avons... Oui, il n'y a aucun critère de qualité que je dis que c'est l'un meilleur que l'autre. Mais nous avons un autre niveau de conscience, c'est-à-dire le moi, par définition, il s'oppose. Lui, il est dans le non. Je suis différent de toi, alors que dans ces lois tribales, c'est la loi de l'ensemble qui régit encore. Donc, nous avons d'autres difficultés dues à cette autre conscience. Il s'agit à dépasser ce moi qu'on a gagné. Il faut le lâcher, enfin, de vie de nouveau. Voilà. Et en le lâchant, bon, il faut dire aussi que le moi, c'est pas tout mauvais. Hein. Il nous amène justement une individualité qui contient autre chose que ce qui existe dans les tribus où on est tous, on devrait tous être à un même niveau. Donc, en fin de vie, il y a d'autres enjeux pour celui qui a un moi et plus qu'un moi hypertrophié, évidemment, plus ça va être difficile de le lâcher. Parce que tout est posé là-dessus, sur ce moi, je suis que ça. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a autre chose. Et effectivement, l'image que j'utilise durant la vie, on a mis des couches et des couches et des couches et des couches. Et en fin de vie, il faut les enlever de nouveau, couche après couche, après couche, après couche. Et ainsi, donc, ça va être arriver après avoir acquis le moi, passer à quelque chose au-delà du moi dans le processus de mourir. Et votre deuxième intervention que vous avez faite, il ne faut pas le voir d'une manière négative. Mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai accouché mon bébé? Mais pas du tout. Nous accouchons toujours de la manière comme nous pouvons faire. Ce que nous avons découvert, c'est que nous avons tous un traumatisme périnatal, c'est-à-dire une empreinte reçue à la naissance, qui s'appelle le départ de la personnalité, mais qui nous donne aussi une couleur unique et qui, elle, va être après déclinée à travers la vie d'une manière répétitive. Enfin, ça, c'est issu de nos travaux de la psychanalyse corporelle. Il n'y a pas des traumatismes périnatales pires que des autres. Et ce n'est pas nécessairement le siège qui est le gros problème. Parce que le vécu du bébé est encore tout autre chose que le vécu de la maman. Parce que lui, il vit son histoire. Et il est confronté à ses épreuves à lui pendant ce passage. Mmh. Oui. D'accord.
Mmh. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? J'aimerais que vous nous parliez d'un sujet qui touche beaucoup en ce moment, c'est l'euthanasie. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Mais il me semble justement lié au moi que c'est absolument logique que ça existe. Parce que le moi, il veut garder le contrôle jusqu'au bout. Et il faut, moi je pense aussi, donc dans ça se joue à mon sens donc dans les phases 2 et 3, dans le long couloir des pertes, dans les contractions, quand il s'agit de perdre, quand je pense à Buffet, le peintre Buffet, quand lui il commençait à trembler parce que le Parkinson prenait de plus en plus le dessus, lui étant identifié que je suis peintre, il était impossible, et c'est pour ça qu'il a décidé aussi de mourir, il est impossible d'être autre chose, parce que le moi croit qu'il est rien s'il n'est plus ceci ou cela. Donc, l'euthanasie, c'est une réponse logique à « je ne veux pas être rien ». Donc, ils prennent la porte sortie de secours, je dirais. Plutôt que la porte sortie de lâcher le moi pour découvrir qu'ils sont autre chose, au-delà du moi. Et je ne vais pas la juger comme mauvaise ou bonne. C'est lié à un état de conscience que nous avons, et nous irons de plus en plus dans cette direction-là. Parce que l'enjeu qui se joue et qui est tellement difficile pour le moi qui ne veut pas lâcher, c'est si je peux décider jusqu'au bout, donc je m'élimine. Plutôt que d'apprendre une dernière leçon encore. Mais je crois aussi que ça contient une logique, parce que si on n'a pas appris durant sa vie à lâcher déjà, durant sa vie à profiter quand on perd, il va être extrêmement difficile en fin de vie de faire ce retournement. Je crois autant qu'en préparant une grossesse, ça commence pas quand vous avez des contractions, ça commence des mois et des mois avant pour que la mère s'y prépare à affronter cette douleur autrement plutôt que dans la résistance. Donc il me semble aussi que la préparation à l'accouchement fin de vie, elle doit commencer durant la vie déjà, pendant que nous sommes pas encore mourants, en tout cas pas officiellement.
Merci. Maintenant je vais revenir un petit peu à vous, à votre travail. Concrètement, est-ce que vous avez commencé à mettre en pratique cet accompagnement pour mourir vivant, et surtout dans des structures officielles ?
Eh bien, dans les formations que je donne aux soignants, oui, ça a commencé.
En France, en Suisse ?
En France, oui, il y a une école, l'école de formation médicale et paramédicale qui est à Lyon, pour la psychologie nucléaire. Donc, c'est pour soignants, médecins et tous les soignants qui tournent autour des mourants. Et puis en Suisse, à Genève, oui, en Suisse romande, je forme les soignants.
Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question à Lydia Muller ?
Je voudrais savoir comment vous abordez la souffrance en fin de vie et l'abandon de la conscience. Pour un mourant, comment on peut l'aider ? Puisqu'en fait, la mort, c'est souvent aussi la souffrance. Et Bon, si on traite la souffrance, ça peut être l'abandon de la conscience, justement, et la perte de...
Donc, vous parlez d'une souffrance psychique.
Physique.
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 Moi, je ne suis pas médecin. Et je dirais que c'est un atout pour moi, parce que ça m'oblige d'aller... Il y a assez de médecins aujourd'hui qui sont en soins palliatifs et sont... très calé pour maîtriser la douleur physique. Les progrès que la médecine a fait dans ce domaine sont phénoménaux actuellement. Donc moi, je ne m'occupe pas de la douleur physique. Par contre, ce que j'ai découvert avec mes patients cancéreux, c'est que combien leur douleur physique est en lien avec leur douleur psychique. Je vais vous donner un exemple. J'avais un patient en stade terminal d'un cancer du pancréas. Et il vivait des courbatures extrêmement douloureuses. Il devait changer toutes les 30 secondes de position. C'est parce que ça le contractait jusqu'à ce que la douleur le tenaille. Il changeait, il avait un répit de 30 secondes et ça le reprenait de nouveau. Et il n'y avait rien qui le relâchait. Donc il est arrivé dans cet état-là chez moi. Et moi, j'étais vraiment désemparée parce que devant une douleur physique comme ça, moi, psychologue, psychothérapeute, je ne peux rien faire. Il était plein de médicaments qui n'aidaient pas. Donc je lui ai dit, écoute, je peux faire une chose avec toi, si tu es d'accord. Qu'on aille voir de quoi cette contraction parle, qu'est-ce qui se passe dans cette contraction. Et si tu es d'accord, je vais t'aider à t'empêcher de tourner quand tu voudras te soulager, pour que tu la rencontres, cette contraction. Et j'ai fait quelque chose d'assez difficile, parce que quand quelqu'un a mal, on voudrait le soulager. Et là, j'ai aidé qu'il rentre dedans. Et ce qui s'est passé, quand je l'ai tenu, parce qu'il était d'accord, mais quand on est à bout de rouleau, on est prêt à accepter n'importe quoi, finalement. Et quand je l'ai tenu, il disait... Il voulait se débattre et je l'ai tenu, hein, parce que j'ai quand même une certaine force. À un moment donné, il a commencé à gueuler, mais comme une bête. Et il a crié, voilà la prison de ma vie de tous les jours. Depuis toujours, je vis dans cette prison. Il a commencé à pleurer, à sortir. Quelle était sa prison à commencer avec sa mère, qu'il n'a jamais lâchée, ou de laquelle il n'a jamais su se séparer. Donc voilà, en fin de vie, il a mis le doigt à travers cette douleur qui parlait comme un miroir dans son corps, la prison qu'il vivait. Homme tout gentil, toujours disant oui, serviable. Et il réalisait, là, en stade terminal, où il était vraiment emprisonné. Et je peux vous dire, il s'est levé, il avait un coussin là, comme ça, contre son ventre, serré, il se balançait et il disait, mais oh, j'ai plus mal. Et cette douleur était partie. Alors que sa femme a dû l'amener presque en le portant, il est reparti sur ses deux jambes. Donc, le travail que j'essaye de faire, c'est de les accompagner dans leur douleur. Et pour qu'une dernière rencontre puisse avoir lieu, de les rencontrer dans leur souffrance. Mais il faut aussi dire qu'il a fallu que je rencontre d'abord ma souffrance à moi, là où moi je crevais, dedans, pour que je puisse aider en dehors, là où j'ai pu m'aider moi. Donc ça me semble une condition sine qua non. Est-ce que je vous ai répondu à votre question ? Est-ce qu'il y a encore une question?
Oui, est-ce que vous voulez dire que vous pouvez soulager en fonction de la demande de la personne que vous avez en face, uniquement?
Ah, mais ça me
soulager la souffrance, je veux dire.
Bon, il y a des personnes qui savent tellement pas avoir une demande, parce que jamais on leur a enseigné qu'ils pouvaient avoir une demande. Et ça m'est arrivé que j'aille à la rencontre de gens qui n'avaient aucune demande parce qu'on m'a envoyé auprès d'eux. Donc là, ça se joue un peu différemment parce que, en fait, c'est sûr, je crois bien qu'on peut aider seulement là où il y a une demande. Mais d'abord, il s'agit de créer une relation.
Mon travail, où je focalise de plus en plus vers les difficultés des enfants de lâcher leurs d'accompagner leurs parents, de leur famille, je vais avec eux simplement leur donner un espace de parole déjà et leur dire en montrant le processus de cet accouchement fin de vie, pour qu'ils comprennent où ils en sont et qu'ils comprennent quel est l'enjeu de cette phase-là. Et d'entendre quelle est leur difficulté pour qu'ils puissent trouver des solutions. Par exemple, il y avait une femme d'un cancer, avec un cancer, un tumeur du cerveau, aussi terminal. Elle avait une attente de, comment on dit, une expectative de vie encore à peu près 6 mois. Et je lui ai dit, alors elle était pas de sang, elle disait, moi, c'est très bien que je puisse mourir. D'ailleurs, elle avait déclenché 6 semaines après la mort de sa mère. Et elle m'a dit, de toute façon, moi, je rejoins maman maintenant. Et j'ai dit, est-ce que dans cette phase, tu aurais envie de quelque chose encore? C'est aussi encore l'espace de trouver des envies profondes. Qu'est-ce que tu as envie? Elle commençait déjà à avoir de la difficulté à parler, parce que ça appuyait sur les hémisphères, sur les endroits du langage. Ils disent, oui, avant que je perde toute faculté de m'exprimer, j'aimerais réunir tout le monde et je vais me faire une grande fête. C'était au printemps. C'est super. J'aimerais inviter tous mes amis. J'aimerais inviter, un peu comme les tribus indiennes, j'aimerais inviter tous ceux que j'aime. Je vais me mettre dans une chambre et j'aimerais que chacun vienne et je passe un temps avec chacun. Et que tant que j'ai encore la parole, eh bien, je puisse leur dire ce qui me tient à cœur, combien je les aime, ce qu'ils m'ont apporté et qu'on ait cet échange encore. J'ai dit, mais c'est super, eh bien, on va mettre ça en route. Et puis les enfants l'ont organisé, ils ont fait cette fête et 4 semaines après, elle est morte. Elle a eu encore la possibilité de dire ce qu'elle avait à dire. Parce qu'il y a aussi un apaisement, hein, se mettre en paix, se mettre en ordre. Mais pour pouvoir le faire, il faut quand même s'y préparer. Quand vous partez avec le train, vous préparez quand même vos bagages. Si vous savez pas que vous devez partir, vous voulez pas le savoir, et puis le moment vient où vous devez prendre le train, eh ben vos bagages sont en désordre, vous prenez une brosse à dents et puis vous courez au quai de la gare. Mais c'est une fin de vie horrible comme ça. Vous le faites avec les voyages que vous entreprenez. Pourquoi on ne le ferait pas avec le dernier voyage?
Je vous remercie, Lydia Muller. On peut continuer à vous rencontrer sur le stand où vous dédicacerez votre livre. Merci.